Voilà, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, la Bible qui nous a été donnée pour que nous puissions connaître les voies du Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Toi-même, tu as dit quand tu étais sur la terre que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera point. Alors Seigneur, merci de ce que nous pouvons ouvrir cette parole et nous en imprégner, mieux te connaître et mieux savoir comment tu veux que nous puissions nous conduire en tant que disciples. Nous demandons ton aide et ton esprit surtout pour que, Seigneur, tous nos schémas que nous avons pu nous former, nous puissions les mettre à tes pieds pour être transformés, changés encore aujourd'hui. Te prions au nom de Jésus. Alors pour ceux qui sont de passage, eh bien, ils profitent d'une série d'enseignements que nous avons décidé ensemble, en tant que communauté, sur l'obéissance. C'est le titre qui est inscrit là. Ça s'inscrit dans un thème pastoral depuis 12 ans. Vous savez, nous sommes un corps hein, en tant qu'Église. Jésus a dit que nous sommes un corps, c'est-à-dire nous fonctionnons comme une personne morale. Donc nous ne sommes pas divisés, nous sommes un, selon l'enseignement du Seigneur. Et tous ensemble, nous voulons travailler dans une unité à édifier ce corps. Et cette personne morale que nous sommes, en tant qu'Église, ici, au Bergenville, eh bien, nous avons besoin de progresser, de mûrir, de grandir, de connaître davantage de choses. Non pas simplement dans une croissance numérique, parfois c'est des objectifs d'église, mais c'est vraiment dans une croissance qualitative de maturité spirituelle. Et ceci, nous avons commencé ces thèmes que nous développons tous les ans, depuis une douzaine d'années, et cette année, c'est le thème de l'obéissance. Alors comme parfois l'obéissance est un mot rébarbatif, hein, qu'on n'aime pas trop, il faut bien l'expliquer, donc ça nous permet dans ces messages de contourner ce mot de l'obéissance selon la parole de Dieu, selon l'enseignement de la parole. Et nous l'inscrivons aussi dans un objectif de bâtir le royaume, hein. Non pas simplement l'Église, qui est le rassemblement des croyants, mais le royaume, parce que nous voulons bénir, être une bénédiction là où Dieu nous a placés. Une bénédiction ici, Élisabethville, Aubergenville, une bénédiction pour le Mantois. Et je profite pour dire que dimanche prochain, il faudra qu'on mette une grande pancarte sur l'église. L'église est fermée. C'est la seule fois. Jamais on ferme l'église de toute l'année. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. En tout cas, nous, on prend des vacances, mais on s'assure que l'église ne soit pas fermée. Mais là, c'est une exception parce que c'est l'ensemble des églises évangéliques et protestantes du Mantois qui se réunissent pour la première fois depuis l'histoire de cette région. Donc c'est un grand événement. Donc je vous invite à venir pour ceux qui peuvent à l'île aux Mônes à Mantes, la Jolie, et on sera plus de 1000 personnes qui se réunissons dans le cadre de toutes ces églises. Voilà, donc c'est important que ne soyez pas devant une porte fermée. Et donc nous voulons bâtir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est pas simplement sur cette terre, mais sur cette terre, Dieu veut bénir tous ceux qui nous entourent. Elle dit, là où je te place, je t'utiliserai comme une bénédiction. Et nous voulons être bénédiction pour notre entourage. Et avec l'obéissance, comme nous l'avons déjà appris, avec Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire, avec l'adoration, hein, et donc maintenant avec l'obéissance. L'obéissance est propre aux disciples. Jésus, il a fait des disciples. Il s'est entouré de disciples. Et d'ailleurs, ce n'était pas spécifique à Jésus. À l'époque, déjà, le discipulat qui suivait des maîtres était tout à fait connu. Sauf que Jésus était un maître particulier. Ce n'était pas n'importe quel maître. Mais il faisait des disciples et il a amené le royaume. Il a dit, le royaume s'est approché de vous. Parce que Jésus est venu avec le royaume dans son cœur et il l'a établi auprès de ses disciples. Et il en a utilisé 12. Il aurait pu, en tant que fils de Dieu, en former 12 000. Mais 12. Je ne sais pas si c'est le chiffre d'Alpha, d'ailleurs, votre groupe. Enfin, bon, vous n'êtes pas loin de ça. Enfin, peu importe. Mais c'est pour dire qu'un petit nombre peut impacter beaucoup, un grand pays. Hein. Tout simplement, si nous sommes de vrais disciples. Si nous sommes connectés avec le Père, avec le Dieu Tout-Puissant, on l'a chanté pendant la louange, Dieu est puissant. Vous le croyez ? Alors, si Dieu est puissant, eh bien, nous, en tant que disciples, nous sommes connectés à cette puissance. Et tout simplement, il faut le faire dans l'humilité. C'est une manière d'être qui est importante du disciple. Et nous le verrons par la suite. Donc, le disciple est discipliné. Alors là aussi, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, la discipline. Et là aussi, c'est parce que très souvent, ce mot-là est chargé. Hein, discipline militaire. Hein, je crois que mon frère, il était dans l'armée. Donc, on pense à cette discipline. Alors, en fait, le mot discipline, dans cet esprit de disciple, c'est être instruit par le maître. C'est la notion d'instruction, la notion d'éducation. Et c'est la notion d'enseignabilité, hein, que nous, en tant que leadership, on considère comme une valeur importante pour donner à quelqu'un un leadership, c'est qu'il soit enseignable. Et nous avons tous besoin d'être enseignés. Vous voyez, nous, en tant qu'Église, on a besoin d'être enseignés pour que ce corps que nous formons, nous puissions grandir et mieux servir le Seigneur. Mais en tant qu'individu, nous avons besoin d'être enseignés. Et nous devons avoir cette enseignabilité jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Il y en a qui connaissent tout ici. Hein ? Donc, nous devons avoir cette capacité de nous laisser enseigner, d'être disciplinés. Enfin, dans le mot obéissance, il y a aussi... Donc, j'ai décrit la discipline. Je voudrais, dans la suite des messages, développer quatre outils de la discipline qui sont basés sur Matthieu 16, 24, que je vous invite à prendre maintenant pour le lire. Matthieu 16, c'est un chapitre un peu central dans Matthieu. Hein, tout simplement parce que, pour la première fois, Jésus utilise le mot « église ». Jésus l'utilisera que deux fois, hein, église. C'est plus dans les épîtres, c'est Paul, Pierre, etc., qui parlent d'église. Mais Jésus, qui a institué l'église dans Matthieu 16, l'utilisera que deux fois, Matthieu 16 et Matthieu 18. Et dans le cadre d'une discipline. Et dans le cadre d'une discipline qu'il introduit, la notion d'église. C'est intéressant. Et dans Matthieu 16, ben, je vous rappelle le contexte. C'est Jésus qui emmène ses disciples à ce moment-là dans le territoire de Césarée de Philippe, hein, qui est la montagne la plus haute au nord d'Israël. Et c'est un peu comme s'il montait sur cette montagne-là, et ensuite après il descendait à Jérusalem. Donc à partir de là, il descend sur Jérusalem pour aller mourir sur la croix. Et là, c'est un peu comme un sommet dans son ministère, et il leur dit « J'établis mon église sur la foi ». Sur votre foi, sur la foi de Pierre. Et donc, il établit l'Église sur la foi de Pierre. Et ensuite, après, nous voyons que Pierre, il dévisse immédiatement. Il dévisse parce que Jésus, il enseigne quelque chose qui n'est pas recevable. Il parle de la souffrance. Vous savez, un maître, normalement, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la souffrance. Prenez les maîtres bouddhistes, les maîtres toutes ces disciplines, ils aident à dépasser la souffrance, même à la prendre comme une illusion, enfin dans tout le bouddhisme, etc. Or là, Jésus, il dit « je vais souffrir ». Et pour un disciple, enfin, tel que Pierre, hein, qui est un battant, qui est quelqu'un qui veut voir son maître calmer la tempête, enfin c'est un fougueux, quoi, hein. Cet enseignement-là, il ne le reçoit pas. À tel point qu'il reprend Jésus. Le disciple reprend Jésus. Il dit, mais Jésus, non, ça ne t'arrivera pas. Un peu comme si c'était une parole de Dieu, hein, avec une détermination comme Pierre peut l'avoir. Hein. Il le reprend et dit, non, Jésus, ça ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Arrière de moi, Satan. Et alors, souvent, on utilise ce terme, hein, mal à propos. Non pas que Jésus dit que Pierre est un Satan, mais simplement les paroles qui viennent sont des paroles de ce monde, qui sont une sagesse qui vient de ce monde, qui vient de manière naturelle. Or, Jésus est dans une sagesse spirituelle, une sagesse où il faut d'abord qu'il s'abaisse pour qu'ensuite il soit élevé. Et c'est pas lui qui s'élève, c'est son père qui l'élève. Vous voyez, c'est toujours quelqu'un d'autre. Très souvent, l'homme, par son orgueil, s'élève lui-même. Et bien sûr, il espère que tout le monde va applaudir à son élèvement. Et très souvent, c'est la chute. Mais ce sont toujours les autres qui doivent crédibiliser, légitimer eh bien, notre responsabilité, notre leadership. Et Jésus lui-même se soumet à son Père. Et tout d'abord, il s'abaisse jusqu'à la mort, comme on l'a vu dans le texte de Philippiens. Et suite à cette remarque de Jésus, arrière de moi Satan, il dit au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples. » Et là, Jésus enseigne un fondement du discipulat. « Alors il dit à ses disciples. » Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit quelque chose qui pour nous est fondamental dans la question de l'obéissance. Il dit « Si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même. » Donc on va décortiquer ce passage en quatre éléments. Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce qu'il y en a qui veulent venir après Jésus? Ça, c'est être disciple. Eh bien, il y a quatre conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il renonce à lui-même ou qu'il cesse de penser à lui-même. D'autres traductions traduisent de cette manière. Il renonce à lui-même ou il cesse de penser à lui-même. Le deuxième élément, qu'il se charge de sa croix. Alors là aussi, la religion, on a fait une sorte de caricature un petit peu, on doit porter une croix physique, souffrir, etc. C'est pas du tout ça. C'est un instrument de responsabilité. Jésus s'est responsabilisé. Et il a jusqu'au bout, il a cherché à éviter. Jusqu'à Golgotha, il a dit à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Il a résisté jusqu'au bout à ne pas prendre cette croix. Mais à la fin, il l'a pris par amour pour nous. Donc c'est un instrument de responsabilité. Et aujourd'hui, nous avons tous notre croix, notre responsabilité en tant que disciples. Nous avons des responsabilités différentes, selon les talents, selon les dons que Dieu nous donne, selon les positions, selon l'appel, etc. Mais tous, nous avons une responsabilité. Est-ce que nous faisons face à cette responsabilité? C'est là la question que nous développerons dans un autre message. Qu'ils me suivent. Qu'ils me suivent. C'est pas à vous de décider où Jésus doit aller. Lui, il décide où il va et vous devez le suivre. Très souvent, nous voulons donner des ordres à Jésus. Oh oui, ce serait bien, tel projet, ce serait bien que tu le fasses, Seigneur. Oui, c'est bien si on en reste là. Mais si on veut absolument lui forcer la main pour qu'il fasse ce projet que nous avons, c'est pas le suivre, c'est forcer la main à Dieu. Donc cette attitude de soumission, qu'ils me suivent, et en particulier dans la vérité. Nous allons voir, la vérité est importante parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous voyez dans le monde, où très souvent, quand quelqu'un est pris au piège tout de suite, c'est le mensonge qui est là, c'est pas la vérité, parce qu'on a peur. Et le dernier élément de ce disciple-là, on saute quelques versets, au verset 27, où Jésus dit en vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit en vérité, c'est vraiment que c'est important. En vérité, je vous le dis, vous, mes disciples, au verset 27, pardon, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire avec ses anges, alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Non pas selon sa manière de parler. Il le dira un peu plus loin, vous le voyez dans le chapitre 17, il a dit, il y en a qui diront Seigneur, Seigneur. Il dit, je ne vous connais pas. Ce n'est pas ce qu'il y a sur notre bouche, sur nos lèvres. C'est dans nos agissements, dans nos actes, dans notre façon de nous comporter avec les autres, dans la façon de nous comporter avec la vie. Donc, ce sera un dernier élément, une quatrième clé pour l'obéissance du discipulat. Alors, la première, on va développer aujourd'hui, donc les quatre techniques de discipline ou de souffrance librement consenties, comme Jésus a librement consenti cette souffrance de la croix en Matthieu 16, où il a dit à ses disciples, je vais souffrir, mais c'est pour un objectif, un but important. Donc ces quatre techniques, c'est d'abord retarder la satisfaction qui nous est légitime. Nous sommes construits pour être satisfaits, sinon nous ne serions pas des humains, nous serions des extraterrestres. Mais cette souffrance légitime, cette satisfaction légitime, il faut accepter de la retarder. Accepter la responsabilité, donc c'est la croix, hein, parce que j'ai tourné un peu les éléments différemment, parce que quand on les prend sous un autre angle, ça parle. Quand on a toujours les mêmes mots, on dit « Ah, ben ça, je connais hein, », et on passe dessus. Se consacrer à la vérité, et enfin, donc, trouver l'équilibre. Donc, retarder la souffrance légitime, il faut d'abord renoncer à soi et renoncer à sa satisfaction. Tout d'abord, parlons de la souffrance. Dans Hébreux, chapitre 5, c'est aussi un élément important pour notre compréhension de l'obéissance. Dans Hébreux, donc l'épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. 5, 7 et 8. Je lis le verset 7. C'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair offrit à grands cris et avec larmes, c'était une souffrance terrible, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Vous voyez, il a appris, c'est le mot discipline, c'est le mot éduquer, c'est le mot enseigner, être enseigné. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, bien qu'il fût le Fils de Dieu, bien qu'il fût vraiment celui qui est à la droite du Père, hein, bien qu'il fût le Fils. Donc, l'apôtre dans les Hébreux insiste bien là-dessus pour dire, même si Jésus a dû passer par là, à combien plus forte raison, le disciple que nous sommes, nous devons y passer. Et c'est par quoi il est passé? Il offrit, donc, des prières, des supplications, ayant été exaucé au sépétier, il a pris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Donc là, on a une clé absolument indispensable. L'obéissance, on l'apprend par la souffrance. Désolé pour ceux qui pensent l'inverse. L'obéissance s'apprend par la souffrance. Je répète, l'obéissance s'apprend par la souffrance. Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que bon, je me suis converti à l'âge de 20 ans. J'ai eu une conversion un peu à la Saul de Tarse. Hein. J'ai rencontré vraiment Dieu dans une grande lumière, dans quelque chose de puissant. Et j'ai vraiment voulu servir le Seigneur. Le Seigneur m'a dit non, tu travailleras en tant qu'ingénieur et tu me serviras. Et jusqu'à donc l'année 78, tout se passait bien, avec les enfants, tout. Et là, quand on est arrivé ici, il y a eu vraiment une difficulté où j'ai vraiment souffert. Vraiment, c'était, mes jours étaient en danger, tellement la souffrance était forte. Et c'est là que j'ai appris le plus. Bon, j'aurais certainement pas supporté avant, le Seigneur le sait, mais c'est là que j'ai appris le plus. Parce que quand on a, vous savez, une marche, on a tendance à essayer de la franchir soi-même, parce qu'on est assez fort, quoi. Mais quand vous avez un mur, deux choses l'une, hein, où ça passe, où ça casse, mais vous ne pouvez plus rien faire. Et là, quand on appelle Dieu, et quand on compte sur Dieu, et quand on essaye de franchir et qu'on sait qu'on ne peut plus soi-même, c'est là qu'on apprend les principes fondamentaux qui nous établissent en tant que disciples. Et je remercie le Seigneur pour cela maintenant, mais à l'époque je ne le faisais pas, parce que j'ai appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il a dit à ses disciples, je vais souffrir. Il savait, il était conscient, il n'était pas naïf. Et c'est dans cette obéissance eh bien, qu'il a pu accomplir le plan de rédemption pour nous, le plan de salut pour nous. Alors combien plus forte raison, nous, que Dieu veut utiliser pour le salut d'autrui? Nous ne pouvons pas l'accomplir dans notre propre capacité. Il faut l'obéissance à Dieu. Il faut être obéissant. Vous savez, quand on a un tempérament un peu volontaire et tout ça, on a tendance à prendre les choses en main. Et dans le monde, il faut. Et j'ai travaillé dans le monde et je sais que pour faire une fusée, c'est pas facile. Hein. Quand elle se crache et tout, il faut reprendre les choses en main. C'est vraiment toute une dynamique qu'il faut reprendre avec beaucoup de responsabilité. Mais c'est beaucoup plus dur de servir le Seigneur, parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut laisser le Seigneur agir dans sa puissance. Il faut le laisser, lui, passer, tout en assumant nos responsabilités. Et ça, c'est un élément inverse de ce qu'on apprend dans le monde, parce que c'est Jésus lui seul qui veut conduire la victoire pour que notre chair ne se mélange pas à l'esprit. Donc il faut retarder la satisfaction. Un petit mot pour bien comprendre quelles sont les difficultés. Parce que très souvent, quand on dit « oui, un disciple doit obéir », on est tous d'accord. Hein. Vous êtes tous d'accord d'obéir au Seigneur. Hein. Sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Moi, le premier, à l'âge de 20 ans, j'étais prêt à obéir au Seigneur. Partout, j'irai avec toi. Hein, quand j'ai pris le baptême. Et quand la difficulté vient, alors là, ça commence à être un peu différent. Hein, notre fougue commence à baisser. Quand on est enfant, et on est tous passés par l'enfance, hein, quand on est enfant, eh bien, on a une tendance à se servir soi-même. Vous avez déjà vu les petits enfants tout de suite, hein? Bon, bah, parce que c'est leur monde, hein? Ils se servent, hein? Ils lisent, ou... c'est normal. C'est la tendance immédiate où on ne connaît pas encore le monde, où le monde est, c'est nous-mêmes. Hein? Donc on se sert soi-même et on veut se faire plaisir. Le seul problème, c'est que si cette tendance continue à persister dans l'adolescence, ça devient un peu plus critique. Mais il y a des enfants qui veulent que ça reste comme ça. Et parce que c'est bien, c'est super de se satisfaire soi-même. Hein. Surtout si les parents sont là pour encourager et puis pour donner. Mais le problème de la vie, c'est qu'il faut aller vers la souffrance. Et donc à l'inverse de ce qu'on a pris dans l'enfance. Et c'est là qu'il y a une résistance, parce qu'on a un certain confort qu'on ne veut pas lâcher, donc on veut le maintenir en place. Et quand c'est les hommes adultes qui le font, c'est la dominance. Et toute la tyrannie qu'on peut connaître dans le monde politique. Donc c'est une tendance naturelle, mais il ne faut pas qu'elle se prolonge dans l'adolescence. Encore moins dans l'âge adulte. L'adolescent, vous savez, son raisonnement, c'est simplement dire « Bon, bah... je profite maintenant, on verra plus tard. On paiera plus tard, je profite maintenant. » Vous voyez, c'est, bien sûr, c'est comme ça qu'il justifie le fait qu'il veut se satisfaire. Mais celui qui est responsable, celui qui est disciple, eh bien, il dit non, j'ai besoin de grandir, j'accepte la souffrance, j'accepte eh bien, de ne pas chercher ma propre satisfaction tout de suite, parce que Dieu peut me la donner autrement. Mais je veux servir Dieu et je m'interdis de me servir d'abord moi-même. La raison pourquoi souvent les adolescents continuent à rester enfants, c'est en grande partie les parents ou les modèles parentaux. Tout simplement parce que, eh bien, ils ne donnent pas l'exemple. Ils ne montrent pas eux-mêmes qu'ils savent se retenir. Et donc, ils copient beaucoup. Le modèle parental de discipline, hein, c'est pas trop de discipline, parce que ceux qui disciplinent trop, ils arrivent aussi à l'inverse. Ils arrivent à d'écouter l'enfant. Hein. On va le voir plus tard, une des clés, c'est l'amour. Hein. Il faut discipliner dans l'amour. Hein. L'amour est capital. Même chez les parents qui sont des élites, hein, dans la société, ils peuvent tout donner, ils peuvent être des exemples. Mais s'il n'y a pas l'amour, eh bien, l'enfant n'aura pas la sécurité intérieure de qui il est. Et l'amour, c'est, on le verra aussi, ça prend du temps. L'amour suppose du temps. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que l'amour, c'est simplement faire des caresses, dire des mots gentils et tout ça. Non, c'est l'action de donner du temps. C'est-à-dire de la personne ou l'enfant, il sait qu'il a de la valeur parce qu'on prend du temps pour lui. Donc le temps accordé est absolument important dans cette construction de l'identité pour accepter la souffrance. Il y a aussi la valeur de l'exemple. Nous avons vu que pour nous, Jésus a été un exemple. Hein, et les parents aussi doivent être des exemples. Les parents qui consacrent du temps à leurs enfants, qui répondent par des conseils bienveillants et des réprimandes ou des encouragements, toujours affectueux, ils sont attentifs à l'enfant, eh bien, ils donneront à l'enfant aussi envie de souffrir, parce que les enfants voient que les parents souffrent pour eux. Et donc c'est un exemple pour eux. Et ça donne leur ciment, le ciment à leur personnalité, une auto-discipline, parce qu'ils voient les fruits que ça porte. Alors, je voudrais revenir un petit peu à l'amour pour développer ce point. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 13. Il y en a qui ne connaissent pas 1 Corinthiens 13. On le lit dans pratiquement toutes les cérémonies de mariage. Et pourquoi ? Parce que tout le monde a envie de vivre 1 Corinthiens 13. C'est extraordinaire, c'est formidable, 1 Corinthiens 13. Et même si ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens ancrés, ils prennent 1 Corinthiens 13, un peu comme si c'était un idéal à atteindre. Supporter tout, etc. Enfin, c'est extraordinaire, surtout que l'autre, il applique ça pour que je sois heureux. Donc 1 Corinthiens 13, c'est l'amour agapé, l'amour que Dieu a manifesté en donnant son Fils. Et ça, nous, on le veut tous. Mais nous échouons très souvent, la première fois que nous voulons le faire, parce que nous avons en face une personne qui réagit, le conjoint après le mariage, et il y a des heurts qui se produisent. Et donc nous échouons, et nous avons 2 possibilités. La première, c'est que nous disons « Oh, je suis un mauvais chrétien, je suis un mauvais chrétien ». Et ça mène quoi ? Ça mène la culpabilité. Est-ce que c'est ça que Dieu veut ? Que nous soyons dans la culpabilité ? Nous disons « Non, je suis un mauvais chrétien, j'y arrive pas, donc finalement je laisse tomber, etc. » Et oui, c'est très facile ça. C'est pas du tout assumer la responsabilité du disciple, c'est dire « Oh, de toute façon, j'y arrive pas ». C'est une question, c'est Dieu qui peut le faire en moi, etc. Et donc, on est victime du passé, on est victime de tout un tas de choses. On trouve toujours à être victime. Et ça, c'est un gros drame dans l'Église, mais aussi dans la société, de toujours se considérer comme victime. La deuxième chose, c'est que nous pouvons nous dire, parce que nous ne sommes pas assez mûrs, j'ai pas encore assez progressé, etc. Et donc, j'y arriverai pas. Et donc, on est dans une position d'attente. D'attente passive, et on fait rien. Pour rentrer dans cet amour agapé, don de soi. Souvent, la racine profonde de cela, c'est que on n'a pas une valeur de soi. On ne se considère pas, on n'a pas la dimension de la valeur de soi. C'est pour ça que nous parlons beaucoup d'identité en Christ. En Christ, nous avons une valeur inestimable. C'est pour ça aussi le suicide et tout ça pour un chrétien n'est pas du tout la solution. Parce que si nous avons une valeur éternelle, une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu, nous ne pouvons pas nous prendre la vie comme ça. Parce qu'il y a un manque de valeur de soi. Et cette valeur de soi n'a pas été construite suffisamment dans l'enfance et dans la vie chrétienne. Et pour cela, il faut soit une éducation des parents, qui est une valeur qui est déjà de base, mais surtout la foi dans la parole de Dieu qui nous parle de notre identité. Et quand on est dans cette foi de l'identité en Christ, eh bien, nous pouvons avoir une valeur de nous-mêmes parce que Dieu nous la donne, parce que Dieu nous l'accorde, parce que nous avons une valorisation extraordinaire aux yeux de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des êtres qui sommes des fils de Dieu. Et la parole de Dieu nous le rappelle, nous ne le sommes pas parce que nous essayons de l'être, mais nous le sommes par un don que Dieu nous donne. Et donc, si nous avons cette valeur de soi, cette estime de nous-mêmes, cette identité forte, eh bien c'est une valeur forte qui va nous permettre de retarder la souffrance, de retarder la satisfaction dans la souffrance. Pour revenir aux actes, l'amour, c'est une parole et des actes. Il y a des parents qui arrivent à dire des paroles et à faire des actes. Mais il y a des parents qui arrivent à dire des paroles sans les actes. Je m'explique. Les parents peuvent dire, on peut faire des bisous à l'enfant, on peut faire un tas de gestes affectueux. Mais au fond, ils ne prennent pas ce temps précieux parce qu'ils ont d'autres choses à faire, etc. Ils le font en vitesse, etc. Donc ils ont les paroles, ils ont la façade, mais pas réellement le temps de prendre, de montrer l'affection profonde, l'amour profond. Et ça, l'enfant le sait dans son inconscient. Il le sait. L'enfant, il sait que c'est superficiel. Il sait que c'est pas profond. Il sait que les actes ne suivent pas les paroles. Et là, dans l'enfant, il y a une sorte d'insatisfaction. Il n'est pas valorisé en lui-même parce qu'il sait qu'il n'est pas aimé. Réellement. Et ça, c'est dramatique. Alors que ceux qui font les paroles et les actes, eh bien, les enfants se sentent aimés. Ils ont le sentiment d'être aimés. C'est pas dans la tête au niveau intellect, c'est dans leur conscient. Ils savent qu'ils sont aimés. Ils savent que les parents tiennent à eux. Ils savent que n'importe quoi qui arrive, les parents tiennent à eux. Ils vont tout faire, ils vont donner leur vie pour son enfant. Et ça, c'est un capital extraordinaire pour l'enfant, parce qu'il est vraiment bien dans sa personnalité. Et c'est pareil pour le chrétien adulte. Si vous transposez ça sur le chrétien adulte qui n'a pas le sentiment d'être aimé par Dieu, il y en a qui disent « mais je ne sens pas l'amour de Dieu ». Alors je ne dis pas qu'il faut avoir des sensations, des frissonnements, vous voyez, c'est pas ça. Mais ceux qui ne sentent pas et qui le disent, qui sont honnêtes pour le dire, eh bien ils n'ont pas cet enracinement dans leur valeur de soi. Ils ne s'estiment pas eux-mêmes. Ils ne s'estiment pas eux-mêmes, ils se dévalorisent, ils prennent tout un tas d'exemples pour se dévaloriser. Et ce chrétien-là ne peut pas être disciple. Il ne peut pas vraiment souffrir comme son maître. Parce qu'il faut d'abord être totalement, eh bien, être conscient que Dieu m'aime et que ce sentiment d'amour de Dieu pour moi est absolument fondamental. Et alors, il peut rentrer dans une autodiscipline. Il peut rentrer dans une discipline de son comportement, de son attitude, de sa manière d'agir. Dieu a dit, il y aura un jugement, tous les chrétiens passeront en jugement. Et Dieu jugera, non pas le salut pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, sont sauvés, mais sur leur manière d'agir, sur la manière dont ils ont agi. Vous n'avez pas fait ceci à moi, j'étais en prison, etc., j'étais là, vous voyez, sur la manière d'agir. Et la manière d'agir, justement, elle est inconsciente, elle n'est pas consciente. C'est pour ça que la parole, ne vous fiez pas aux paroles. Les faux prophètes, vous ne les discernerez jamais aux paroles, ou rarement, mais c'est à leurs actes. Regardez les fruits. Et les fruits, ce sont des actes qui produisent des choses d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Et c'est là que vous voyez vraiment dans l'inconscient comment le chrétien, il agit. La satisfaction, c'est l'amour de ce qui me fait plaisir. C'est une idole, c'est une idolâtrie. Et il y a des chrétiens idolâtres. Les chrétiens nés de nouveau qui sont idolâtres. C'est tout à fait compatible, hein. Aucun souci là-dessus. Parce qu'ils ne sont pas dans leur valeur personnelle, ils n'ont pas leur conscience de leur valeur personnelle, du prix qu'ils ont aux yeux de Dieu, que Dieu compte sur eux pour servir son royaume. Et à ce moment-là, ils se dévalorisent et ils cherchent eh bien, plutôt les idoles, même s'ils s'en défendent. Alors que le sentiment d'être aimé, c'est de savoir qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Et quel est l'appel que Dieu a fait dans ma vie. Et vous voyez cela dans tous les épîtres. Pierre, Paul, quand vous prenez les épîtres, vous voyez le démarrage de l'épître, vous voyez comment les apôtres se présentent. Et ils ont une forte identité, une valeur de soi, parce qu'ils l'ont reçu de Dieu, parce qu'ils sont bien dans leur identité que le Seigneur leur a donnée. Le deuxième élément que je voudrais aussi renforcer, c'est le temps, prendre du temps. Vous voyez, Marthe était préoccupée par servir le Seigneur et Marie était préoccupée par l'écouter. Le vrai disciple, c'est celui qui écoute d'abord et qui agit ensuite. Nous ne voulons le précipiter à agir, hein, écouter après, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu a valorisé l'attitude de Marie et l'a écoutée. Le temps viendra pour agir, mais d'abord écouter, être au pied du Seigneur et prendre du temps avec lui. Il y a des gens qui me disent, oui, mais résoudre les problèmes de la vie, c'est difficile, ça me dépasse. Hein. Ils ne prennent pas le temps. Quand vous prenez du temps, bon, moi j'ai appris un peu à prendre du temps, il y a des fois des problèmes qui me dépassent. Hein. Enfin, je sais pas, sur le plan technique, sur le plan spirituel ou matériel, peu importe, qui me dépassent. Mais quand je prends le temps, à un moment donné, je commence à comprendre des choses, même si c'est les choses qui me dépassent. Ça vous est arrivé, ça hein? Vous prenez le temps, à un moment donné, eh bien, les choses très compliquées commencent à être plus simples. Bon, je ne dis pas si on n'a pas les connaissances. Parfois, il faut des connaissances. Mais très souvent, si on prend du temps, on peut résoudre tous les problèmes qui se présentent à nous avec le temps, en laissant les choses s'imprégner en nous. Donc le temps, c'est important. Et il faut que nous prenions le temps, en particulier avec les enfants, de les comprendre. Parfois, il y a des personnalités plus difficiles à comprendre que d'autres. Il faut prendre le temps. Ce n'est pas facile, mais c'est une question de priorité pour les comprendre et prendre le temps de les aimer. Le problème, c'est qu'on doit affronter des problèmes. Et on est tous amenés à affronter des problèmes. C'est le propre de la vie d'adulte, d'affronter les problèmes. C'est pour ça aujourd'hui, les jeunes, pour différentes raisons, hein, mais déjà nous, par rapport à nos pères, mes propres parents, souvent ils se responsabilisaient à 13 ans, parce que le certificat d'études, ça se terminait 13, 14 ans maximum. Et la vie active commençait déjà dans les fermes, commençait déjà plus tôt, mais l'âge de certificat d'études, c'est fini. Ma mère, elle n'a pas pu étudier parce qu'il fallait travailler à la ferme, alors qu'elle était première du canton et qu'elle aurait pu le faire. Mais à l'époque, c'était comme ça. Il fallait tout de suite passer à l'acte. Aujourd'hui, bah, y en a qui vont jusqu'à 30 ans, attendent, disons, la vie est retardée par rapport aux réels problèmes qu'on rencontre dans la vie. Hein. Bon, tant mieux pour ceux qui peuvent en profiter. Mais du coup, il y a une période d'adolescence qui se prolonge, vous voyez, parce qu'on apprend réellement qu'avec les problèmes concrets, les problèmes réels, les problèmes auxquels on doit faire face. Et cette politique de l'autruche, souvent, bah, c'est retarder la satisfaction. C'est-à-dire on veut continuer à être satisfait et la société le permet. Mais les réveils, parfois, sont douloureux. Et donc, la société l'encourage. Mais c'est par l'affrontement des problèmes réel que la vie pose, que nous pouvons apprendre l'obéissance, la discipline et de marcher toujours dans cette attitude d'écoute. Parce que quand on a voulu résoudre un problème, on n'a pas réussi, on commence à écouter la prochaine fois. Bah tiens, maintenant je peux peut-être mettre en pratique quelque chose qu'on va me dire. On écoute les conseils, on est plus à l'écoute de ce que les autres vont dire. Et c'est pour ça qu'aussi dans les entreprises, les formations, souvent on les fait au long du cursus, parce que quand on a vu que des cadres ou d'autres ont rencontré des problèmes qu'ils n'ont pas résolus, la formation, les gens, ils écoutent quand on les envoie en formation, hein, parce qu'on dit tiens, je peux appliquer ça, je peux faire ça, etc. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Si on n'est pas confronté dans un ministère à des difficultés, eh bien, on n'écoute pas. On peut être dans un institut de théologie, hein, peu importe, c'est très bien. Mais disons, c'est vraiment quand on est en face des problèmes et il faut les affronter. C'est là qu'on commence l'obéissance. Je voudrais qu'on prie pour que nous puissions prier pour ces 5 points dans chacune de nos vies. Ces 5 points qui sont demander à Dieu la grâce de renoncer à notre satisfaction immédiate, de rechercher l'amour vrai, l'amour qui se donne, d'accorder du temps aux autres, et particulièrement aux enfants, mais aussi à ceux de notre équipe, hein. On voit beaucoup de cadres ou d'autres qui n'écoutent pas, hein, ils parlent, ils donnent tout de suite. Il faut avoir le temps, et surtout dans l'église, dans le leadership, écouter, prendre du temps. Et être de véritables exemples, en parole et en acte, pour que ça produise un sentiment de confirmation de soi, de la personne, et d'affronter les problèmes de la vie. Moi je dis une chose, c'est que quand il y a une difficulté, eh bien, réjouissez-vous, non pas que vous êtes dans la joie, etc. Mais dire Seigneur, cette difficulté, il faut qu'elle m'aide à monter les marches. Il y a une marche, une difficulté, eh bien je vais apprendre quelque chose et je vais être plus fort pour aller plus loin. Et si vous êtes dans cette dynamique, vous êtes des disciples. Et si vous êtes dans la position de victime, ben non, c'est pas de ma faute, c'est ceci, cela, eh bien vous n'apprendrez rien, vous serez obligé de retourner à cette difficulté pour continuer à apprendre. Donc, le plus vite vous aurez accepté la difficulté pour la surmonter, plus vite vous serez plus fort dans votre vie personnelle, dans votre vie des disciples. Donc renonçons, demandons à Dieu de renoncer à notre satisfaction, à rechercher l'amour qui se donne et non pas qui reçoit, à accorder du temps aux autres, à être de véritables exemples en parole et en acte, et d'affronter les problèmes de la vie, d'accepter d'en faire un marchepied pour grandir et pour obéir, pour atteindre la maturité. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce, qu'il pense différemment, que son état d'esprit change. Eh bien, Seigneur, nous voulons te le demander aujourd'hui. Chacun pour notre part, Seigneur, à différents niveaux, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides pour que cette légitime satisfaction qui est en nous, eh bien, nous puissions la retarder, Seigneur, ou y renoncer en partie. Parce que tu la donnes autrement, cette satisfaction, Seigneur. C'est les lois du royaume. Mais Seigneur, nous te demandons de nous aider à retarder cette satisfaction. Seigneur, aussi à rechercher l'amour vrai. L'amour, Seigneur, qui se donne, Seigneur. Ce n'est pas non plus naturel à nous, mais nous voulons te demander cette grâce. Et aussi que nous puissions prendre du temps. Seigneur, parfois lâcher des choses secondaires, des choses qui nous font plaisir, mais Seigneur, quand il y a une priorité, il faut prendre du temps pour une personne en particulier, pour notre enfant, pour notre conjoint, que nous puissions le faire, Seigneur, pour que, Seigneur, nous soyons plus grands dans notre discipulat. Seigneur, donne-nous aussi d'être des exemples en parole et en acte, en parole et en acte. Que notre inconscient puisse manifester, Seigneur, une véritable soumission, une obéissance à toi, pour que, Seigneur, notre exemple puisse porter vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et Seigneur, te demandons de nous aider à accepter d'affronter les problèmes de la vie, ne pas faire de la politique de l'autruche, ne pas attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Seigneur, ne pas avoir une attitude passive. Nous voulons, Seigneur, avoir cette attitude active, de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes et de pouvoir vraiment résoudre les problèmes, Seigneur, avec ta grâce, avec ton aide, avec ton secours, ton esprit. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous accordes dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci.